Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La mort de Matisse à Châteauroux, le suspect de 15 ans et sa mère, mise en examen. L'adolescent placé en détention provisoire 48 heures après la mort du jeune Matisse, tué après une altercation, c'était quelques heures avant le drame. L'espoir d'une trêve ce matin dans la bande de Gaza. Négociation hier soir en Égypte, proposition d'Israël dans la soirée et réponse attendue ce matin du Hamas.
Et le conflit qui a des conséquences jusque dans les universités françaises, blocage de la Sorbonne hier. Louis Boyard, le député de la France Insoumise, y était. Il s'est interposé entre les étudiants et la police. Il sera mon invité à 8h30.
La 13 en région parisienne. L'autoroute ne rouvrira pas demain, encore 10 jours de fermeture à cause de fissures sans doute provoquées par un chantier à proximité.
L'information de la soirée, la mise en examen du suspect de 15 ans dans l'affaire du meurtre de Matisse.
Oui, c'était samedi à Châteauroux, la mort de Matisse, 15 ans lui aussi, tué à l'arme blanche. L'adolescent a été écroué et mis en examen. Sa mère également mise en examen hier soir. On vous le révélait dès hier midi sur RMC. Les deux adolescents se connaissaient. Il y avait eu une altercation quelques heures avant le drame, au cours de laquelle Matisse aurait frappé le suspect. Julie Brault, sur place à Châteauroux pour RMC, tout le monde parle d'une altercation qui a dégénéré.
Tout part d'une embrouille stupide. Voilà comment Yanis résume tristement la situation. Samedi dernier, quelques instants avant sa mort, Matisse a, selon lui, pris à partie son meurtrier présumé, un jeune de 15 ans qu'il a insulté en pointant du doigt notamment ses origines afghanes. Une altercation qui a provoqué une bagarre entre les deux adolescents.
En gros, Matisse, il a tapé un jeune et le jeune, il n'a pas accepté ce coup. Il n'a pas su comment gérer. Du coup, il a préféré péter un câble, je pense. Du coup, il est parti prendre un couteau. Il est revenu avec un couteau et puis voilà, il a fait ce qu'il fallait pas faire.
Poignardé à plusieurs reprises dans le thorax, Matisse est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital. Un drame inexcusable, martèle Iliès, un ami du meurtrier présumé.
Il n'y a rien qui justifie d'en arriver là. Ça a été trop vite. Ça aurait dû en rester à la bagarre, à la limite. Il n'aurait pas dû aller chercher un couteau et tout. Maintenant, le petit Matisse, il est mort. Repose en paix et courage à toute sa famille et tout. Vraiment.
L'adolescent espère désormais qu'une marche blanche sera rapidement organisée en mémoire du jeune décédé.
Et voilà dans quel contexte le Premier ministre Gabriel Attal a entamé comme prévu ses consultations hier avec les différents groupes politiques insoumis et majorité hier pour tenter d'endiguer ce phénomène de violence des mineurs. Le gouvernement qui est sous pression avec les comptes publics dans le rouge et les 20 milliards d'euros d'économies à faire cette année, les deux principaux groupes d'opposition à l'Assemblée, la France Insoumise et le Rassemblement National, lancent d'ailleurs un ultimatum au gouvernement. Un délai de 30 jours pour corriger le budget via un projet de loi de finances rectificative, comme on appelle ça, et pour qu'il y ait un débat en fait à l'Assemblée. 30 jours sous peine de déposer une motion de censure et donc tenter de faire tomber le gouvernement, hein, Romain Cluzel.
Les insoumis se font peu d'illusions. Il n'y aura pas de budget rectificatif avant cet été. Alors, pour la députée LFI Marianne Maximi, cette menace de motion de censure, c'est une manière de protester contre un manque de débat démocratique.
Nous n'avons eu aucun débat parlementaire et aucun vote sur la question budgétaire depuis le début de ce mandat. On a peu d'espoir que l'année prochaine, ça soit mieux. Donc effectivement, nous posons un ultimatum qui est très précis, très concret.
Un ultimatum brandi aussi par le Rassemblement National et le calendrier est loin d'être neutre. Cette possible motion de censure serait votée quelques jours avant les européennes, une stratégie assumée par le député RN Jean-Philippe Tanguy.
Non, c'est pas neutre, c'est aussi un moment de vérité. Les Républicains crient beaucoup dans les médias et quand vient le moment de les censurer, il n'y a plus personne. Donc on ne peut pas, si vous voulez, dire tout et son contraire. Soit ils sont contre les choix budgétaires et fiscaux de M. Macron, soit ils sont pour.
Le vote des Républicains est en effet indispensable pour qu'une motion de censure soit adoptée, mais après avoir menacé de renverser le gouvernement, les LR mettent pour l'instant cette arme de côté.
C'est l'heure des explications. La patronne des Insoumis à l'Assemblée, Mathilde Panot, et la candidate aux européennes sur la liste LFI, Rima Hassan, sont convoquées toutes les deux ce matin par la police pour apologie publique d'actes de terrorisme dans des prises de parole sur la situation au Proche-Orient récemment, ce qu'elle conteste vigoureusement. Ce matin, il y a l'espoir d'une nouvelle trêve qui renaît dans la bande de Gaza. Il y avait des négociations hier soir en Égypte qui jouent avec le Qatar et les États-Unis un rôle de médiateur dans ce conflit. Les Israéliens, donc, on fait une proposition et le Hamas doit maintenant donner sa réponse, Marion Gauthier.
Toute la pression du monde devrait être braquée sur le Hamas pour lui dire d'accepter cet accord, a déclaré le ministre des Affaires étrangères britannique. Les choses se présentent mieux cette fois, concède un responsable palestinien, mais il est trop tôt pour parler d'une atmosphère positive dans les négociations, prévient un autre. L'État hébreu proposerait un cessez-le-feu de 40 jours et la libération de milliers de prisonniers palestiniens contre celle d'une trentaine d'otages israéliens. Le Hamas réclame un cessez-le-feu permanent. Israël proposerait une période de calme dur, un retrait partiel de ses troupes et une liberté de déplacement pour les civils qui pourraient donc retourner dans le nord de la bande de Gaza. La seule trêve depuis le début du conflit a été instaurée fin novembre. Elle a duré une semaine.
Le conflit qui gagne les universités françaises, la Sorbonne bloquée par une cinquantaine d'étudiants évacués dans l'après-midi hier, et la région Île-de-France qui a décidé de suspendre temporairement ses financements à Sciences Po Paris dans la foulée d'une mobilisation pro-Gaza qui était tendue la semaine dernière. Des nouvelles ce matin de l'autoroute A13 à l'ouest de Paris. Comme on s'y attendait, la fermeture sera plus longue que prévu. Ça ne rouvrira pas demain, mais le 11 mai. Seulement pour les véhicules légers d'ailleurs et dans un seul sens de circulation, Normandie-Paris. Et alors Alfred Orange, ce sont des travaux à proximité qui seraient à l'origine des fissures sur la chaussée.
Oui, d'après nos confrères du Canard Enchaîné, c'est en fait le chantier du futur musée du Grand Siècle de Saint-Cloud accolé à l'autoroute qui serait à l'origine du sinistre. Ces travaux auraient provoqué un mouvement de terrain déplaçant un gigantesque mur soutenant le viaduc de la 13. Tout serait en fait partie de la construction du parking souterrain du musée réclamé à l'époque par le président du conseil départemental. L'ouvrage a obligé à creuser le sol et l'a donc fait bouger. Résultat, le mur s'est déplacé de 6 cm. Provoquant de grosses fissures sur la chaussée. Depuis, les autorités ont ordonné le remblaiement du chantier du parking et des capteurs de mouvement ont été placés sur le mur. Mais il a continué de bouger ces derniers jours, repoussant à chaque fois la réouverture de l'autoroute.
Il est 7h07 sur RMC et il pleut. On en a ras-le-bol dans la majorité du pays, sauf dans les Pyrénées-Orientales, où on s'en réjouit. C'est Géraldine qui disait ça il y a quelques minutes. C'est pas une petite nouvelle dans les Pyrénées-Orientales. Après 2 ans de sécheresse sans aucune pluie significative, il est tombé 31 mm de pluie ces derniers jours à Perpignan, le double même à la frontière espagnole. Alors les habitants dans les Pyrénées-Orientales sont contents qu'il pleuve, hein, Cassandre Brault.
Dans son jardin sous la pluie, Michel a le sourire aux lèvres.
Mon récupérateur est plein parce que quand je tape, je sais qu'il est rempli complètement.
Des mois que cet habitant d'Elne attendait la pluie.
Comme j'ai quelques petites fleurs et puis mes légumes, bon, et ben tout ça, ça va m'aider à arroser.
Et il n'est pas le seul.
Là, c'est un regain d'espoir aussi pour la nature, pour tout. Hein.
Denis Bassery, arboriculteur dans la région, regarde avec optimisme sa seule parcelle d'abricotier qui a survécu à la sécheresse des derniers mois.
Quand on regarde même au sol, là, l'herbe était jaune. Hein. C'est la vie un peu de tous les végétaux. C'est la vie de toute l'activité économique de ce département qui est quand même liée avec l'eau. Hein. C'est sûr que ça nous donne un espoir. Hein.
Mais ces précipitations ne vont pas suffire pour changer l'état des nappes d'eau souterraines, selon Patrick Lachassagne, hydrogéologue.
Ce ne sont pas les pluies de ces derniers jours qui vont inverser la tendance. Ces sols, une fois mouillés, la végétation, dans les jours qui vont suivre, va consommer l'eau qui aura mouillé ces sols, en fait. Et donc, il n'y aura pas d'eau qui va continuer son chemin plus bas, notamment vers les nappes d'eau souterraines.
Actuellement, le niveau des nappes de l'ouest du pourtour méditerranéen est jugé très inquiétant, niveau aujourd'hui encore plus bas qu'en mars 2023.
Et d'ailleurs, premier aperçu de l'été, Météo France donne ses tendances pour les 3 prochains mois avec une chance sur 2 pour qu'il fasse plus chaud que les normales de saison. Ça monte même à 70% autour de la Méditerranée. Et puis le foot, début des demi-finales de Ligue des Champions. Ce soir, le Bayern Munich contre le Real Madrid, 21h, RMC à la radio, RMC Sport 1 à la télé. C'est le match aller. En attendant, Paris à Dortmund demain soir.
En attendant demain soir...
C'est un bel apéro ce soir, le Bayern Real, ouais.
Exactement.
Ça donne envie.
C'est ça,
ouais.
C'est le Zakouski. Il est 7h08 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Nous sommes lundi matin et pourtant je n'irai pas travailler. Je n'irai pas parce que je suis pris pour cible des tracts qui me qualifient d'anti-musulman. On sait où ça a mené, donc je ne veux pas aller travailler.
Voici le message posté hier par un directeur d'école de Seine-Saint-Denis qui dénonce des menaces. Ils veulent ma peau, dit-il, après la diffusion d'un mystérieux tract qu'il accuse d'être anti-musulman. Ce directeur d'école témoigne en direct dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h11 et vous êtes bien sur RMC.
Le témoin RMC.
Le témoin du jour, c'est vous, Nicolas Bourrez. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur d'une école primaire à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis. Et hier, vous ne vous êtes pas rendu au travail, vous n'êtes pas allé à l'école, vous avez porté plainte pour diffamation. Vous dites être la cible de menaces. Un tract distribué dans la ville vous vise directement. Ils veulent ma peau. Voilà ce que vous dites dans une vidéo que vous avez publiée hier. Qui vous en veut et pourquoi ?
Alors, a priori, je ne sais pas qui se cache réellement derrière, mais c'est un comité de défense de l'école publique à Neuilly-sur-Marne qui m'affiche une cible dans le dos, en me traitant d'extrémiste et d'anti-musulman, en raison de la mise en place de l'expérimentation de la tenue commune, donc souhaitée par le Premier ministre et portée également par le Président de la République. Donc, moi, je n'ai fait que suivre les directives. On a concerté toute la population, on a concerté toute la communauté éducative de l'école. Tous les parents d'élèves ont pu s'exprimer, ont pu voter. La décision du conseil d'école a été favorable pour cette expérimentation à partir de la rentrée prochaine en septembre. Et ce comité, assez obscur d'ailleurs, ne veut pas se plier à la majorité, quoi. Donc il m'affiche et il me menace.
Il vous affiche comme vous dites. Ils disent même que vous vous êtes allié avec le maire de la ville pour faire, je cite, une propagande pour le port de l'uniforme. Ce que vous appelez la tenue unique, c'est effectivement le terme officiel. Ça désigne la question du port de l'uniforme. Et vous avez donc demandé cette tenue. Enfin, vous avez proposé cette tenue. Elle a été donc décidée par l'ensemble de la communauté de votre école. Le tract pose la question de l'obsession vestimentaire de Monsieur Bourret. Cacherait-elle une obsession anti-musulmans, qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Alors, le tract a été modifié légèrement par ce comité juste avant qu'il le distribue devant mon école. Donc il a été distribué dans la commune, mais il a été distribué aussi à la sortie de l'école, mardi soir, aux parents d'élèves, et la question a disparu. C'est une affirmation. C'est-à-dire que
il n'y a plus le point d'interrogation, vous voulez dire ?
Il n'y a plus cacherait-elle, il y a caché une obsession anti-musulmans. Donc non seulement c'est encore plus grave, quoi. C'est-à-dire qu'avant de le diffuser, ils affirment. Donc pour le coup, ce que je réponds, c'est que c'est une absurdité. Et puis j'ai aucune obsession. On met en place un projet qui est ministériel. Il n'y a pas d'alliance avec la mairie ou avec quelqu'un d'autre. Il y a juste, on s'empare d'une possibilité. C'est une expérimentation. On verra ensuite si c'est probant ou pas. Mais moi, j'ai rien à répondre à ça. C'est juste un tissu de mensonges et d'absurdité.
Que vous disent les parents d'élèves, que vous disent les professeurs ?
Non, là, je ne suis pas à l'école, donc pour le coup, ils ne me disent rien. Mais dans l'immense majorité, de toute façon, je sais pertinemment que j'ai leur soutien.
Vous avez leur soutien, et vous aviez d'ailleurs leur soutien sur la décision de mettre en place cette uniforme. Est-ce que vous avez une idée de qui se trouve derrière ce comité ? Ce mystérieux comité, hein, puisque c'est donc un tract anonyme.
Moi, j'ai pas envie de rentrer trop dans ce sujet-là. Il y a sûrement quelques parents très très opposés. Il y a sûrement quelques syndicalistes également opposés. Éventuellement, l'opposition politique locale. J'ai déposé plainte deux fois. Donc après, il y a sûrement une investigation policière qui sera faite. Et puis, on verra bien qui est derrière. Ça, c'est pas à moi de définir. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai eu le soutien exclusif de mon syndicat, Action et Démocratie CFE-CGC. La communication officielle est un petit peu fallacieuse, parce qu'on dit qu'on m'a accompagné, mais c'est pas vrai. Je veux dire, moi, j'ai été seul. Donc, du coup, heureusement.
Vous vous êtes senti seul quand vous dites ça. Je vais préciser les choses pour ceux qui nous écoutent. La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a dit hier qu'une protection fonctionnelle vous avait été accordée, que la sécurité, que votre sécurité avait été renforcée en lien avec les forces de l'ordre. Et elle dit qu'un signalement au procureur a été fait, des connaissances des faits. Vous dites que ce n'est pas tout à fait le cas ?
Alors c'est pas du tout le cas. Pour le coup, mon syndicat a répondu à Madame Belloubet par l'intermédiaire de René Chiche, hein, que je remercie vraiment pour vraiment son aide et son soutien. Parce que pour le coup, déjà c'est moi qui ai demandé la protection fonctionnelle et j'ai pas de réponse encore. Mmh. Officiellement, j'ai pas la réponse. Hein, c'est le dossier, il est pris en compte, il est pris en charge. Mais j'ai pas.
Il n'y a pas eu de mesure concrète qui a été prise.
Non, j'ai pas la réponse à savoir si cette protection fonctionnelle est accordée ou pas. J'ai eu aucune communication avec l'académie depuis mercredi midi, où j'ai fait le fait établissement au niveau le plus important pour alerter justement toute la chaîne hiérarchique, parce que lundi j'avais déjà alerté la chaîne hiérarchique de la DSDEN 93, et c'est là que j'avais demandé
d'ailleurs. Vous avez peur ?
Je suis un peu inquiet quand même. Et c'est pour ça que je me suis mis en arrêt maladie de manière à protéger au moins l'école. C'est-à-dire que si c'est moi la cible, au moins je protège les élèves et les enseignants qui sont, qui j'espère peuvent travailler là actuellement sereinement au sein de l'école.
Merci, merci d'avoir témoigné ce matin, Nicolas Bourrez. Je rappelle donc que vous êtes le directeur d'une école primaire à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, la ministre de l'Éducation nationale qui devrait s'exprimer aujourd'hui. Et on verra si effectivement elle répond à ce que vous dites de l'incertitude effectivement sur son affirmation d'avoir signalé au procureur et surtout mis en place une protection pour vous. Il est 7h16 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Gérard Depardieu devant la justice, ce sera en octobre. Raphaël Baquet, grand reporter au Monde, vient de lui consacrer une grande enquête, une affaire française, dit-elle. Elle nous racontera tout à 7h40 sur RMC. Avant cela, il y aura le 7h20 d'Apolline Matin avec Amélie Rosy, qui pour RMC s'engage avec vous, Arnaud Demange qui pirate le face-à-face et Manu Le Chip pour l'écho, bien sûr.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Les coulisses de l'actu avec Hélène Terzian du service politique d'RMC. Bonjour Hélène.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Vous nous avez révélé hier sur RMC que Gabriel Attal a finalement dit OK à un débat avec Jordan Bardella.
Oui, Gabriel Attal veut mettre Jordan Bardella face à ses responsabilités. C'est ce qu'il a expliqué hier face à quelques membres du gouvernement. Le déclic, d'après un ministre, les dérobades à répétition de la tête de liste du RN aux européennes, ses refus de participer à 3 débats. Il serait temps que la supercherie s'arrête, confie un cadre macroniste. Attaquer le RN, certes, montrer qu'il mouille la chemise aussi. Il ne veut pas donner l'impression qu'il se planque, lâche un conseiller de l'exécutif. Action, réaction, c'est même le président qui lui a demandé de s'impliquer dans la campagne, confie un poids lourd de la Macronie. Gabriel Attal construit son parcours politique, certes, mais il est rattrapé au col. En somme, lui aussi portera le chapeau si le score de Valérie Ayé à la traîne dans les sondages est mauvais. Chez les macronistes, aucun doute sur cette confrontation. Il va le pulvériser, lâche une ancienne ministre. Même pas peur, répond le camp d'en face, qu'il vienne le chercher, tense le directeur de campagne de Jordan Bardella. Pour un stratège du RN, c'est l'ultime force de réserve, mais pas sûr que ça suffise. Même un député de la majorité redoute un effet contre-productif. Pas sûr, selon lui, que ça mette la candidate Valérie Ayé dans les meilleures conditions. Car avant le duel Attal-Bardella, c'est elle qui débattra jeudi soir avec la tête de liste du RN.
Indiscret signé Hélène Terzian du service politique d'RMC. Merci Hélène.
RMC, Apolline Matin, le 7h20.
Apolline de Malherbe.
Et c'est l'heure du 7h20 d'Apolline Matin, avec autour de la table Amélie Rosic, Manu Le Chipre, Arnaud Demange. Bonjour, bonjour à tous les
bonjour.
Trois.
Bonjour.
Amélie, on commence avec vous. Ce matin, on parle de permis de conduire.
Oui, alors sincèrement, c'est quand même un examen qu'on n'oublie pas. Apolline, Charles, Manu, Arnaud, je sais pas vous, mais moi je me souviens même de la météo ce jour-là, personnellement. Oui. Et surtout, j'étais dans un état de stress épouvantable. Julien, 21 ans, vit à Pusignan, c'est en banlieue lyonnaise. En août dernier, il obtient son permis de conduire du premier coup, comme moi. Voilà, ça c'était juste pour le placer.
Ouais, moi aussi.
Il pense.
Pareil.
Il pense que le plus dur est derrière lui. Eh bien, pas du tout, parce que 8 mois plus tard, il a toujours pas reçu le permis.
J'ai l'attestation provisoire une fois qu'on passe le permis de conduire, mais elle a fini d'être valide fin décembre. Ce qui fait que depuis le début du mois de janvier, j'ai pas de permis de conduire, alors que j'ai besoin de mon véhicule pour aller en cours. J'en ai besoin pour aller travailler, pour mes déplacements du quotidien. Heureusement, je me suis pas encore fait arrêter.
Voilà, alors l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, l'ANTS, l'informe que la Poste a perdu son courrier recommandé, et lui envoie un simple mail pour unique preuve qu'il a bien son permis. C'est pas trop la procédure, mail à montrer aux forces de l'ordre si toutefois il était arrêté, sauf que c'est pas très rassurant, surtout que la loi est assez claire en la matière, en cas de contrôle routier, vous devez pouvoir montrer votre permis, sinon vous risquez une amende entre 11 et 38 euros, et même jusqu'à 750 si vous n'êtes pas en mesure de vous rendre dans un commissariat ou une gendarmerie dans les 5 jours pour présenter votre titre.
Alors attendez Amélie, admettons ok que le pli s'est perdu, mais ça fait donc 8 mois que Julien a réussi l'examen et l'Agence Nationale là, des Titres n'est pas capable de lui refaire ?
Eh bien non, parce que l'ANTS mène d'abord une enquête postale, figurez-vous. Même deux enquêtes postales, parce que la première n'a rien donné, ils en ont relancé une mi-avril. Il existe bien un entrepôt des plis égarés, ça se situe à Libourne en Gironde. Les postiers y traitent 20 000 dossiers quotidiennement, mais plutôt pour des problèmes d'adresse mal rédigées, par exemple. Donc on ne sait pas où est l'expéditeur ni le destinataire. À ce jour, l'enquête donc sur le permis de Julien n'a toujours rien donné, ma chère Apolline. Et dans ce laps de temps, eh bien l'agence ne délivre pas de nouveaux titres parce qu'en fait, il n'a pas été perdu puisqu'il n'est jamais arrivé. Voyez l'histoire. L'année dernière, 2,7 millions de permis de conduire toutes catégories confondues ont été délivrés par la NTS et ont transité par la Poste.
Et donc, il va devoir rouler encore combien de temps sans entre deux permis?
Eh bien, grâce à notre intervention, plus très longtemps.
Elle a mis son habit de superwoman.
Voilà. Avec Guillemette Franquet, nous avons demandé des comptes aux services concernés et Julien a reçu un mail de la Poste vendredi dernier, puis un coup de fil dans la foulée de la NTS. Une demande spéciale perte
vous
a été faite.
Il y a des êtres humains derrière la NTS qui sont capables de prendre un téléphone et de téléphoner et de parler dans un combiné?
C'est très vrai. Donc, demande spéciale perte a été faite et sera traitée. En priorité, nous dit-on, le papier rose, enfin du coup la carte rose désormais, ne devrait plus tarder. On y veillera parce que, ouais, je sais, c'est plus un papier rose. Voilà, on verra au délai parce que pour l'instant on n'en a pas, mais on espère quelques jours plutôt que quelques semaines.
L'actu écho ce matin, Manu, en 40 ans, la France qui travaille a radicalement changé de physionomie.
Oui, c'est ce que montre le portrait des professions que vient de publier l'INSEE. En gros, en 40 ans, la France est passée d'un pays de col bleu à un pays de col blanc. Pour résumer, la proportion des agriculteurs dans la population active a été divisée par 3, la proportion d'ouvriers divisée par 2 et la proportion de cadres, elle a au contraire quasiment triplé. Aujourd'hui, sur 100 personnes qui travaillent, 2 sont agriculteurs, 19 sont ouvriers, 26 employés, 22 cadres et 25 sont ce qu'on appelle des professions intermédiaires, plutôt plus diplômés que les employés ou les ouvriers, souvent bac plus 2, mais pas encore chef. C'est des contremaîtres, des agents de maîtrise, des commerciaux, des enseignants, des infirmières.
40 années marquées par la féminisation du travail.
Oui, c'est vraiment la tendance forte. Hein. Jamais autant de femmes n'ont travaillé qu'aujourd'hui, mais cette féminisation ne s'est pas effectuée de façon homogène, avec une très forte présence dans quelques secteurs, beaucoup plus faible dans d'autres. Les 3/4 des employés, par exemple, sont des femmes et ce sont aussi les emplois les plus fragiles, puisque si on regarde par exemple les employés peu qualifiés qui sont occupés à plus de 80% par des femmes, eh bien la moitié de ces femmes sont à temps partiel et souvent subies. Ce sont les femmes qui subissent majoritairement aussi une autre tendance marquante de ces 4 décennies, c'est l'atténuation de la frontière entre la semaine et le week-end qui est de plus en plus floue. Pour
ça veut dire qu'ils se retrouvent parfois à devoir bosser
voilà,
le samedi,
fait,
le dimanche.
Il y a de plus en plus de gens qui travaillent la nuit, le soir, en horaire décalé et le week-end. Et puis aussi, enfin, dernière tendance, le temps de travail a globalement diminué au cours de ces 40 dernières années. Mais les agriculteurs restent ceux qui travaillent le plus,
évidemment.
54 heures en moyenne par semaine.
Hallucinant, même s'ils ont enterré la hache de guerre et officiellement dit qu'il y avait fin à ce contest, à cette colère agricole. Arnaud, mon invité ce matin, c'est le député de la France Insoumise du Val-de-Marne, Louis Boyard.
Un jeune aventurier, ça il en vit des péripéties. Hier il était à la Sorbonne et il y avait une épreuve de force avec les CRS.
Eh, des CRS à la Sorbonne, c'est pas souvent. Hein. Alors Louis Boyard est en campagne pour les élections européennes, comme ses comparses de LFI, avec cette question centrale. Doit-on faire rentrer la bande de Gaza dans l'Union Européenne? Et puis c'est tout comme programme. Alors hier, l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la révolution islamique en Iran, a tweeté des photos de blocage d'universités de partout dans le monde avec ce message. Voyez ce qui se passe dans les pays occidentaux, en Angleterre et en France, ainsi que dans les États américains. Les gens sortent en grand nombre pour scander des slogans contre Israël et l'Amérique. Alors, quand un des plus grands tyrans du monde t'apporte ton soutien, c'est pas forcément bon signe. Hein. Le jour où tu t'engages dans le féminisme et que tu vois Harvey Weinstein tweeter une photo de ta tronche avec marqué « Force à toi dans ton combat, mon frère. Je sais que t'es un amoureux des femmes, comme moi. Ah, » c'est chaud. Ouais. Ceci dit, si les mollahs iraniens rencontraient les étudiants de Sciences Po, ils hallucineraient. Ali Khamenei, tu le mets en face de Gonzague et Capucine qui lui disent « Bonjour, monsieur Khamenei. Enfin, monsieur, si vous êtes un homme, parce que oui, une femme peut avoir une barbe et ses règles. Et aujourd'hui, on voulait parler avec vous de la situation à Gaza, car aujourd'hui, à cause des bombardements israéliens, on ne peut pas vivre son homosexualité en toute sérénité là-bas. »
Ah bah, c'est sûr que là, il y a
l'autre qui va répondre « Bah, j'ai une barbe, mais j'ai pas mes règles, hein, on est d'accord. » Oui, on est d'accord, mais ce serait possible, admettez-le. Bref, ça fait beaucoup de questions à poser à Louis Boyard à 8h30.
Ce sera donc à 8h30. Tout à l'heure, on vous retrouve d'ici là?
À 8h20.
À 8h20, à tout à l'heure. Il est 7h27, on se retrouve dans un instant pour la météo de journal. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal, Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Gérard Depardieu sera jugé en octobre prochain pour agression sexuelle sur deux femmes au cours d'un même tournage. Il a passé la journée en garde à vue hier. Un patron du CAC 40 gagne en moyenne 130 fois plus que son salarié moyen. Un rapport de l'Oxfam dénonce les écarts de salaire dans les grands groupes. Et puis faut-il craindre un embrasement des facs françaises comme aux États-Unis? Après Sciences Po Paris et la Sorbonne, deux nouveaux rassemblements de soutien à Gaza sont prévus à Lyon aujourd'hui.
Un nouveau tournant dans l'affaire Gérard Depardieu.
L'acteur placé en garde à vue hier est désormais convoqué devant le tribunal correctionnel pour son procès qui se tiendra en octobre prochain. Déjà mis en examen pour viol, il sera cette fois jugé pour agression sexuelle. Gérard Depardieu a déjà contesté les faits dans la presse et devant les enquêteurs hier. Mais cette fois, Marion Dubreuil, il va devoir s'expliquer devant le juge.
Oui, l'acteur sera jugé pour des agressions sexuelles sur deux femmes qui ont déposé plainte cette année. Les faits qu'elle dénonce remontent au mois de septembre 2021 sur le tournage des Volets Verts. Une décoratrice du film, âgée de 53 ans, accuse Gérard Depardieu de l'avoir coincé entre ses jambes et pétri la taille jusqu'au sein en menaçant sur le ton de la blague de la pénétrer. La troisième assistante réalisatrice du même long métrage, âgée de 33 ans, a dénoncé quant à elle de nombreux attouchements à la poitrine et sur les fesses. Elles avaient affirmé que l'acteur avait dû s'excuser auprès d'elle à la demande de l'équipe de production. Une troisième plaignante a été confrontée, elle aussi, hier après-midi au comédien. Elle dénonçait des attouchements quand elle n'avait que 24 ans sur le tournage d'un court-métrage. C'était il y a 10 ans, mais les faits sont aujourd'hui prescrits.
Et ne manquez pas, juste après le journal dans ce studio, Raphaël Baquet, journaliste au Monde, auteur d'une grande enquête, une affaire très française. Voilà l'enquête qu'elle consacre à Gérard Depardieu. Elle parle de lui en disant « Le génie s'est transformé en monstre ». Elle nous raconte tout ça. Donc juste après votre journal, Élise.
Les suites du meurtre de Matisse à Châteauroux samedi soir, pour lequel un adolescent de 15 ans et sa mère ont été mis en examen tard dans la soirée. Lui, pour meurtre, il a été placé en détention provisoire. Elle, pour violence volontaire sur personne vulnérable, elle est accusée d'avoir giflé le jeune homme déjà à terre. Il est 7h32 et vous gagnez combien? Si vous travaillez dans une entreprise du CAC 40, tendez l'oreille, il se pourrait que votre patron gagne 130 fois plus que vous. C'est en tout cas la moyenne en France, celle des revenus des grands patrons rapportés au salaire moyen dans leur entreprise. Et c'est l'ONG Oxfam qui nous révèle ces écarts qu'elle qualifie d'indécents, écarts qui ne cessent de se creuser, Romain Houk.
Oui, ces patrons ont gagné en moyenne 27% de plus en 2022 que 3 ans auparavant, environ 6 600 000 euros de rémunération annuelle en moyenne, quand les salariés n'ont eux été augmentés que de 9%. Et c'est bien de ces disparités entre patrons et salariés dont se désole Oxfam dans ce rapport intitulé Cash 40. Pour faire simple, prenons Alexandre Bompard, c'est le PDG de Carrefour. Il gagne en 9 heures ce que gagne un salarié moyen de l'entreprise en un an, nous dit l'association. 426 fois plus. En clair, la richesse produite par les salariés ne cesse de croître, mais elle est redistribuée de manière inéquitable. Alors pour y remédier, Oxfam propose de réguler le salaire des patrons qui ne pourraient gagner qu'au maximum 20 fois plus que le salaire médian de son entreprise.
Un grand patron, lui, mis en examen notamment pour abus de biens sociaux, c'est Arnaud Lagardère, le PDG, soupçonné d'avoir puisé dans les comptes de ses sociétés pour financer son train de vie et ses dépenses personnelles entre 2009 et 2022. Il est 7h33, le Hamas prépare sa réponse à Israël pour une trêve de 40 jours à Gaza en l'échange de la libération d'otages israéliens, et elle devrait être rapide, promet un cadre du Hamas bientôt, 7 mois après le début de la guerre. C'est un mouvement parti des États-Unis qui prend de l'ampleur en France. Les manifestations dans les universités en soutien à Gaza, après Sciences Po Paris, dont les financements viennent d'ailleurs d'être suspendus par la région Île-de-France. Et la Sorbonne, hier, où les manifestants se sont fait déloger par les forces de l'ordre, nouvelle journée d'action, et cette fois pas qu'à Paris. Deux rassemblements sont notamment prévus à Lyon, Vincent Chevalier.
Rassemblement en solidarité avec la Palestine prévu à midi dans la cour d'honneur du centre Berthelot qui abrite Sciences Po. Justine sera présente.
C'est une situation qui est juste désastreuse et qui m'émeut beaucoup.
Cette étudiante en deuxième année a suivi de loin le blocage de Sciences Po Paris, mais pour elle, pas de quoi polémiquer.
C'est des moyens de manifester qui sont totalement légitimes, qui ont toujours fait partie des luttes, qui n'entachent en rien la légitimité du mouvement.
Également étudiante à l'Institut d'études politiques de Lyon, Naïla fera partie du rassemblement et elle rejette catégoriquement toute accusation d'antisémitisme.
On peut plus défendre une cause sans qu'on nous tâche de quelque chose d'autre. C'est pas une question d'antisémitisme. Et je trouve qu'on se fait trop vite attacher de ça pendant que c'est vraiment pas le cas et ça n'a jamais été dans nos convictions ni dans nos pensées.
Pourtant, selon l'UNI, un syndicat d'étudiants étiqueté à droite, ces rassemblements sont souvent marqués par des débordements.
Les slogans, c'est Abat l'État d'Israël, sioniste hors de nos facs.
Barthélémy Kerbido, responsable syndical à Lyon, en appelle aux directions des établissements.
Je rappelle que le blocage d'une faculté est illégal et puni par la loi et que les présidents d'université ont la possibilité de faire intervenir la police via le préfet.
Un autre rassemblement est également prévu à 16h dans la cour de l'université Lyon 3.
7h35, Paris a rendez-vous avec l'histoire demain. Demi-finale aller de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund en Allemagne. Les Parisiens annoncés favoris retrouvent un adversaire contre lequel ils n'ont pas perdu en phase de poule cette saison. Mais attention car le Borussia Dortmund a deux visages et le meilleur est en Ligue des Champions, Valentin Jamin.
La Ligue des Champions, c'est une joyeuse parenthèse dans la saison particulière de Dortmund. Cinquième et irrégulière en championnat, l'équipe surprend tout le monde en Europe, même Jesko von Eichmann, journaliste qui suit le club pour Sky.
C'est difficile à expliquer. Ils peuvent être faibles contre des équipes modestes en Allemagne et très forts en Coupe d'Europe. Ils ont gagné de la confiance dans cette compétition. Des joueurs ont progressé, il y a plus de motivation. La défaite en poule contre Paris était leur pire match, les joueurs le disent.
Une victoire logique, 2-0 du PSG, mais Dortmund est monté en puissance et avait failli éliminer Paris lors de leur deuxième affrontement, score final 1-1. Depuis, le Borussia n'a perdu qu'un match dans la compétition contre l'Atlético de Madrid au tour précédent avant de tout renverser au retour grâce à un caractère loué par l'entraîneur Edin Terzic.
On n'avait qu'un point après deux matchs en Ligue des Champions. Tout le monde pensait que c'était fini pour nous. Mais on s'est battu et maintenant, on se sent bien dans ce genre de rencontre, même si ce sera dur. Mais on mérite d'être là et on sera prêt.
Ce week-end, son équipe a été battue 4-1 à Leipzig. L'objectif, le top 4 s'éloigne et contrairement aux Parisiens, Terzic n'a pas pu faire reposer ses joueurs ces dernières semaines.
Et avant Dortmund-PSG, le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Bayern Munich ce soir à 21h. Match à suivre à la radio sur RMC et à la télé sur RMC Sport 1.
Et puis le quintet, Élise.
Eh bien, c'est à 13h55 sur l'hippodrome de Fontainebleau aujourd'hui. Et comme chaque jour, la Dream Team des courses RMC vous livre son pronostic. Leur favori, c'est le numéro 15, Canoan. L'outsider, c'est le numéro 10, Winterland. La course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 7h37 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Gérard Depardieu, devant la justice, accusé d'agression sexuelle. La chute d'un monstre du cinéma. C'est ce que vous racontez dans votre dernier livre, Raphaël Baquet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio avec nous. Vous êtes grand reporter au Monde. Pour vous, Depardieu, c'est une affaire très française. Voyez d'ailleurs le titre de votre livre et vous nous dites pourquoi dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h40 et vous êtes bien sur RMC.
L'invité du jour.
On va parler de Gérard Depardieu avec vous, Raphaël Baquet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio, vous êtes grand reporter au Monde. Vous venez de publier une affaire très française, c'est une enquête très fouillée sur Gérard Depardieu. Il y aura bien un procès pour Gérard Depardieu. Il est sorti hier de 11h de garde à vue et il s'est vu remettre une convocation devant le tribunal correctionnel. Ce sera en octobre prochain pour agression sexuelle sur au moins deux femmes. Il a été d'ailleurs confronté hier à trois femmes, dont deux plaignantes. Une troisième a porté plainte pour des faits d'agression sexuelle en 2014. Est-ce que dans cette histoire, au fond, c'est la première vraie pierre dans le jardin de Gérard Depardieu qui, jusqu'à présent, donnait le sentiment d'être assez éloigné, continuait à être d'ailleurs défendu, on va y revenir, notamment par Emmanuel Macron. Pour vous, c'est un tournant ?
Ah oui, c'est même un extraordinaire coup de théâtre parce que Gérard Depardieu, d'abord, est l'acteur français le plus connu au monde et c'est la première fois qu'on voit un acteur renvoyé en correctionnel avec une telle abondance de témoignages aussi, et des témoignages relativement récents, parce que souvent, hélas, dans les affaires MeToo, les témoignages datent un peu et souvent sont frappés par la prescription. Là, les témoignages datent de 2021, c'est-à-dire bien après l'explosion du mouvement
MeToo. Témoignages et plaintes, mais témoignages très nombreux, y compris dans la presse. Hein.
Oui. D'ailleurs, nous-mêmes, quand nous avons enquêté, nous avons été frappés de retrouver des témoignages. En fait, depuis très longtemps, le comportement de Gérard Depardieu est problématique. Depuis les années 80, depuis sa célébrité, en fait.
Depuis sa célébrité.
Oui.
Ils sont passés où, tous ces témoignages?
Bah, souvent.
Vous les avez immédiatement retrouvés, mais je veux dire, comment est-ce possible que cette accumulation de témoignages, qui, j'imagine, devait se passer aussi de femme en femme, c'est-à-dire, attention, méfie-toi, arrivant sur un tournage, personne n'en avait rien fait.
Non, parce qu'à l'époque, Gérard Depardieu était très puissant. N'oubliez pas que sur ses épaules reposait quasiment l'essentiel du cinéma français. Son seul nom à un générique permettait de financer un film. Il a tourné d'ailleurs beaucoup de chefs-d'œuvre, quelques navets aussi, mais beaucoup de chefs-d'œuvre. Et donc, il était puissant, admiré, aimé du public, et donc évidemment d'une certaine façon intouchable.
Raphaël Baquet, c'est très frappant que vous situiez au fond ce moment, ce tournant judiciaire, dans un moment de très grande solitude, si on en croit votre livre. Il est esseulé aujourd'hui, Gérard Depardieu. Vous racontez cette solitude de l'homme et cette perte de puissance. Il a fallu que l'étoile s'éteigne, au fond, pour que l'action judiciaire puisse avoir lieu.
Oui, il a fallu à la fois le mouvement MeToo, bien sûr, mais aussi la fin de carrière de Gérard Depardieu. Depuis quelques années, il ne tourne pratiquement plus ou des films très secondaires. Là, les derniers films pour lesquels les plaintes courent ont été tournés en 2021. Mais
quand vous dites qu'il ne tourne pratiquement plus, est-ce qu'il ne tourne pratiquement plus parce que au fond c'est la fin? Vous dites d'ailleurs que le génie s'est transformé en monstre, hein, c'est votre expression. C'est au fond parce qu'il s'était mis à tourner de plus en plus de navets, que lui-même sa carrière au fond s'étiole. Ou est-ce qu'il ne tourne plus parce qu'il est déjà en quelque sorte une personne non désirable désormais pour le cinéma français, c'est-à-dire que c'est devenu l'inverse, son nom ne permettrait même plus d'avoir les financements?
Non, il ne tourne plus pour des raisons classiques dans le cinéma, classique, qui sont liées à son âge, à
son physique. Ça n'est pas une condamnation avant l'heure.
Non, voilà, le cinéma est dur pour les acteurs et les actrices qui vieillissent. Donc c'est le cas de Gérard Depardieu, il tourne beaucoup moins et en tout cas pratiquement plus à cause de son âge, à cause de son ampleur physique, à cause de son alcoolisme aussi, et puis parce que lui-même s'est lassé. Hein, depuis déjà 20 ans, il s'est tourné plus vers les affaires que vers le cinéma. Donc c'est vrai qu'il n'avait plus la carrière qu'il a eue auparavant.
Pour l'instant, il nie, il continue à nier, il a continué, semble-t-il, encore hier à nier, il récuse les accusations qui sont portées contre lui.
Oui, il a toujours, et peut-être même le croit-il lui-même, mais il a toujours affirmé que ce n'était pas des agressions sexuelles, c'était des blagues. D'ailleurs, il ne s'est jamais caché hein, lorsqu'il agresse les femmes.
Oui, ce n'est pas quelqu'un qui aurait mis en place une sorte de stratégie de contournement ou pour c'est sortir ces femmes, ces jeunes femmes des tournages pour essayer. Non, c'était devant tout le monde, au vu et au su.
Ça peut arriver que ça soit chez lui, dans le secret de son hôtel particulier, mais très souvent c'est en public. Et très souvent d'ailleurs, il y a beaucoup de témoins. C'est d'ailleurs aussi pour ça que le parquet s'est décidé à le renvoyer en correctionnel.
Témoins, complaisants, complices?
Pas forcément, mais c'est vrai que, en tout cas dans le passé, il avait un tel pouvoir qu'il s'attaque aussi toujours à une certaine catégorie de femmes. Pas
plus vulnérables,
aux femmes puissantes.
Plus vulnérables.
Toujours aux femmes plus vulnérables, aux femmes plus précaires, surtout dans le milieu du cinéma. On le voit bien, là, les femmes qui portent plainte, elles font des métiers très importants dans le milieu du cinéma, mais qui sont des métiers précaires. Assistante décoration, figurante, maquilleuse. Vous voyez, c'est des métiers, si vous vous plaignez, vous pouvez sauter d'un tournage sans que personne ne le remarque. Une star comme Depardieu, c'est autre chose. Et c'était ça aussi qui comptait, la hiérarchie entre la star Depardieu et les femmes qui étaient ses victimes.
On est frappé qu'il y a quelques semaines encore, Emmanuel Macron le défendait ostensiblement et vraiment avec force. C'était sur le plateau de l'émission C'est à vous. Pas un mot pour les victimes à ce moment-là et vraiment la volonté de quasiment nier les quelques accusations publiques aussi contre lui et notamment le documentaire de complément d'enquête. Comment vous expliquez qu'Emmanuel Macron se soit engouffré à ce point dans cette brèche?
D'abord, ça a souvent été ça. Depardieu, il représentait en tout cas une part de notre identité française.
On peut dire ça tout en disant
oui,
que l'homme Depardieu est aujourd'hui accusé.
C'est là que le président de la République a fait une erreur. Il a pensé que la célébrité extraordinaire de Depardieu faisait oublier les accusations qu'on pouvait porter contre lui. Et puis Gérard Depardieu avait appelé le président de la République, Julie Depardieu aussi. Et
il lui a passé un coup de fil
oui,
avant.
Et Emmanuel Macron, c'est un admirateur de Depardieu, il aime le théâtre, tout le monde le sait, c'est un admirateur de Depardieu. C'est encore une fois souvent ça qui a sauvé l'acteur. Il suscite une très grande admiration et donc, au nom de son génie, on excusait son comportement.
Est-ce que cette condamnation, est-ce que ces plaintes, d'après l'enquête que vous avez menée, pourraient en entraîner d'autres? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des témoignages qui pourraient se transformer de témoignages à plaintes?
À vrai dire, la plus grave plainte qui court contre lui, c'est la plainte pour viol et la mise en examen pour viol. Hein. Celle de Charlotte Arnoux, elle date de 2018, donc elle n'est pas prescrite. Le problème, c'est que beaucoup de plaintes sont prescrites aujourd'hui, mais les témoignages s'accumulent et ça crée un faisceau. Les vraies plaintes qui aujourd'hui lui valent un renvoi, il y en a six. Bon, une qui est en Espagne, donc je l'écarte. Une cinquième qui peut éventuellement être prescrite, mais les autres, il peut être effectivement, il a une mise en examen qui va lui valoir probablement d'être envoyé en correctionnel. Ces deux plaintes qui lui valent d'être envoyé en correctionnel, il peut y en avoir une quatrième. Et les témoignages sont assez nombreux. Et ils s'accumuleront, si vous voulez, ils créeront un faisceau contre Gérard Depardieu.
Raphaël Baquet, est-ce que ces quelques derniers soutiens, je pense à quelqu'un comme Carole Bouquet, qui l'a défendu avant de regretter cette fameuse tribune qui avait été signée par un certain nombre de personnalités du cinéma, est-ce que ces soutiens-là, est-ce que ces proches, est-ce que ces intimes même de Gérard Depardieu continuent à le soutenir?
Oh, il a toujours ses proches et sa famille. Et c'est normal, on va pas leur reprocher de soutenir quelqu'un de leur famille. Mais il est de plus en plus seul tout de même. Le milieu du cinéma, en tout cas, ne s'aventure plus beaucoup à le soutenir publiquement. C'est surtout ça, c'est les soutiens publics qui se sont complètement étiolés. Ceux qui se passent dans l'intimité, ils existent toujours.
Vous parlez d'un homme seul, mais qui malgré tout continue à avoir autour de lui sa famille et ses
amis. Ça fait longtemps qu'il est assez seul. Il est infernal aussi, comme dans sa façon d'être. Donc ça fait longtemps qu'il est assez seul. Il boit beaucoup, vous le savez. Il a une forme de façon de s'imposer. Il voyage toujours beaucoup. Il se fuit lui-même en fait depuis des années. Donc c'est vrai qu'il n'a pas une cour comme il en avait une auparavant. Aussi parce qu'il a perdu une partie de son pouvoir.
Et tout cela, vous le racontez dans ce livre que je recommande, Une affaire très française, c'est aux éditions Albin Michel. Raphaël Baquet, vous signez ce livre avec l'autre auteur Samuel Blumenfeld. Merci d'être venu raconter Gérard Depardieu. Je rappelle donc ce procès qui se tiendra en octobre, il est 7h50.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, expliquez-nous, Nicolas.
Et dans un instant, je vous explique ce que contient l'accord sur une possible trêve à Gaza.
A tout de suite.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles. La musique française s'exporte de plus en plus.
Mais oui, plus 30% de ventes et d'écoutes à l'étranger l'an dernier. C'est le bilan que vient de publier le Centre National de la Musique qui prend en compte toute la musique made in France, hein, produite en France, pas uniquement par des artistes français. C'est pour ça que des Belges comme Stromae ou Angèle figurent dans ce classement. Mais en 2023, c'est sans surprise Aya Nakamura. Oh, qui a porté le marché français à l'export. Chez les hommes, on peut citer les très beaux scores de Dadju, Gazo ou encore Soul King. Leur titre s'exporte extrêmement bien. Et puis on note aussi une percée d'une chanson de Charles Aznavour.
Hier encore, j'avais 20 ans, je
caressais. Et parmi les titres français les plus écoutés à l'étranger en 2023, tout simplement parce qu'elle a été samplée par la star du reggaeton Bad Bunny pour son tube Monaco.
La femme est l'étonnement. J'avais 20 ans, je caressais le temps.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53, Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas. On attend la réponse du Hamas à la proposition d'accord présentée par Israël. Les Américains disent espérer une réponse favorable qui permettrait un cessez-le-feu à Gaza.
Oui, l'accord proposé au Hamas prévoit effectivement un cessez-le-feu de 40 jours contre la libération d'otages israéliens retenus à Gaza et la libération de milliers de prisonniers palestiniens détenus en Israël. Plusieurs milliers, ont même précisé les Américains. L'accord prévoit également le retour des déplacés à l'intérieur de la bande de Gaza, les centaines de milliers de Palestiniens qui ont dû quitter le nord pour s'entasser dans la ville de Rafah au sud. Ils seraient donc possiblement très rapidement autorisés à regagner leur domicile.
Combien d'otages pourraient être libérés?
Alors c'est toute la question. Les Israéliens voulaient 40 otages pour 40 jours de trêve. Ils réclamaient la libération des femmes, civiles et militaires, et des hommes de plus de 50 ans ou bien des hommes en mauvaise santé. Mais selon le site d'information américain Axios, le Hamas a fait savoir qu'il ne détenait pas 40 otages répondant à ces critères, mais seulement une vingtaine. D'après les médias israéliens, le cabinet de guerre
Pierre, qui dirige le pays, a autorisé les négociateurs à signer un accord qui prévoit moins d'otages libérés, moins que les 40 espérés au début. Le chiffre de 33 otages a été avancé par les Anglais, ce qui représenterait un tiers de la centaine d'otages encore vivants.
Les Américains qualifient la proposition israélienne d'extrêmement généreuse.
Oui, parce que pour la première fois, les Israéliens acceptent d'évoquer un cessez-le-feu durable. Jusqu'à présent, ils n'acceptaient de parler que d'une trêve limitée, alors que le Hamas réclamait un arrêt définitif des combats. Pour la première fois, donc, les Israéliens ont accepté l'idée de négocier un cessez-le-feu durable. Plus exactement, l'accord parle d'une période de calme durable. Mais ces négociations sur une trêve plus longue ne se tiendraient que dans un deuxième temps. L'accord prévoit effectivement deux phases. La première d'une trentaine de jours où auraient lieu les libérations des premiers otages et des premiers prisonniers palestiniens et le retour des déplacés. Puis une deuxième phase qui commencerait dans un mois et pendant laquelle pourrait être négocié un arrêt définitif des combats. Ce qui ne veut pas dire que l'on obtiendra ce cessez-le-feu définitif, mais au moins pour la première fois, Israël accepte d'en parler.
Et ce sont les Égyptiens et les Américains qui ont négocié cet accord.
Oui, ce qui veut dire que le Qatar a été écarté. Le patron des services secrets égyptiens, Abbas Kamel, s'est rendu en Israël le week-end dernier avec le patron de la CIA, Bill Burns. Ils ont négocié donc tous les détails de cet accord. Puis hier, ils sont rentrés au Caire pour soumettre le texte au Hamas. Et maintenant, on attend la réponse.
Et pendant ce temps, la Cour pénale internationale s'apprête à délivrer un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou.
Oui, c'est éminent. D'après le New York Times, le tribunal de La Haye va demander l'arrestation du premier ministre israélien, de son ministre de la Défense, Yoav Gallant, et du chef d'état-major de l'armée. La CPI leur reproche une réponse excessive à Gaza après les événements du 7 octobre et d'avoir empêché l'arrivée de l'aide humanitaire. Les responsables israéliens auraient violé l'article 8 de la Convention de Genève qui dispose que c'est un crime de guerre de causer intentionnellement de grandes souffrances. Concrètement, cette décision n'aura pas de conséquences immédiates parce qu'Israël ne reconnaît pas la Cour pénale internationale et ne va donc pas arrêter et livrer ses dirigeants. Mais symboliquement et politiquement, c'est un coup dur pour Benjamin Netanyahou qui va se retrouver être le seul dirigeant en exercice inculpé par la justice internationale, le seul avec Vladimir Poutine.
Oui, effectivement, c'est une cruelle compagnie. Nicolas Poincaré pour ses explications. Il est 7h56, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal à la une du journal de 8h. Pas d'écran avant 3 ans, pas de portable avant 11 ans. Voilà les conclusions d'un rapport remis aujourd'hui au gouvernement. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.